Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Une eau de qualité accessible à tous. La pénurie gâte la planète. En Europe aussi, on s'inquiète. Des abeilles décimées, les pesticides, eux encore, sont montrés du doigt. Ce sera notre chronique avec le site My Europe. Le portrait d'un homme d'affaires prospère, un Syrien réfugié en Turquie comme 2 millions de ses concitoyens. Mais tout de suite, le roi d'Espagne en visite en France, Felipe VI, se démarque en tout point de son père, Juan Carlos.
Don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
À peine un an après avoir été intronisé roi d'Espagne, Felipe VI vient réaffirmer la proximité de Paris et Madrid. Une visite officielle écourtée en raison du crash en France de l'Airbus A320. Un souverain qui semble prendre le contrepoint exact de son père, surtout en termes de popularité, François Musso.
Pour tout dire, les Espagnols ont perdu foi en leur leader. Tous les chefs de parti pataugent avec des taux de popularité négatifs, pour ne pas parler des institutions, la justice, la police, la présidence du gouvernement, les autorités régionales, les syndicats et j'en passe. Dans ce marasme, dans ce divorce entre citoyens et leurs représentants, une seule institution surnage, la monarchie, une seule personnalité trouve grâce aux yeux des Espagnols, le jeune roi Philippe VI qui frôle les 70% d'opinion favorable. Et ce n'était pas gagné d'avance car la fin de règne de son père faisait peine à voir, avec des scandales judiciaires, une santé détestable et l'image d'un Juan Carlos qui faisait des parties de chasse africaines clandestines lorsque son peuple subissait la crise économique de plein fouet. Avec Philippe VI, le changement de style est foudroyant. Le quadra à la taille d'un basketteur et à la barbe poivre et sel, joue la transparence presque totale, publie les comptes de la monarchie, réduit son salaire, ne parle plus à sa sœur Christina accusée de détournement de fonds publics. Il se pose en modèle et d'ailleurs ne cesse de répéter que la seule légitimité de la monarchie, c'est d'être absolument exemplaire. Je cite, Philippe VI se pose aussi en homme au-dessus de la mêlée, essayant d'atténuer les tensions entre nationalistes espagnols et indépendantistes catalans, au point, lorsqu'il se rend à Barcelone, de prononcer un discours en catalan. Son message essentiel est clair, l'unité dans la diversité, personne n'est de trop dans notre Espagne. Rassembleurs, transparents, portant beau, sympathiques et souriants, dans leur grande majorité, les Espagnols ne sont pas peu fiers de leur meilleur ambassadeur.
C'est une menace désormais plus que sérieuse qui pèse sur la planète, la pénurie d'eau. Et sur un continent comme l'Europe, le sujet aussi est sensible. Alors que les gouvernements réduisent leurs dépenses publiques, l'accès à l'eau risque de ne plus être un droit citoyen. La privatisation de l'eau fait partie des mesures préconisées en Grèce. Et en Irlande, la population manifeste violemment contre les premières factures d'une eau qui était jusqu'alors gratuite. En Italie, les militants du mouvement pour l'eau s'inquiètent. Le gouvernement de Matteo Renzi pourrait préparer une privatisation du secteur. Et ce, alors que des mesures très concrètes, comme des fontaines à eau gratuites dans les grandes villes italiennes, ont prouvé leur popularité. C'est le reportage à Florence de Cécile Debarge.
Place de la Signora, en plein cœur de Florence, une petite niche à même le mur du Palazzo Vecchio suscite un attroupement. Au milieu des touristes, une Italienne pressée se faufile.
Excusez-moi, puisque personne n'y va, moi je me sers.
L'objet de la convoitise, une fontaine d'eau potable entièrement gratuite.
Ah oui, en gros, tu peux choisir entre l'eau plate naturelle et gazeuse. C'est génial, mais je vais prendre gazeuse.
À Florence, la première fontaine a été installée dans les années 90. Aujourd'hui, la ville en compte 25 et 6 autres seront inaugurées cette année. À l'origine, l'idée est de réduire la consommation d'eau en bouteille dans un pays où l'eau du robinet a toujours suscité la méfiance. Matteo Colombi travaille pour Publiacqua, l'entreprise qui gère l'eau dans la région et qui entretient ce réseau de fontaines.
L'idée était de réconcilier les citoyens avec l'eau du robinet. On a fait des campagnes d'information pour expliquer que c'était une eau de qualité contrôlée tous les jours par nos laboratoires.
L'année dernière, 70 millions de litres d'eau ont ainsi été distribués.
C'est autant de plastique qui n'a pas été utilisé et dont on ne doit pas gérer les déchets. C'est donc une autre économie pour la communauté et bien sûr pour l'environnement. On a fait le calcul, 160 millions de litres d'eau distribués permettent d'économiser 9000 tonnes de CO2.
Surtout, insiste Matteo Colombi, l'économie profite directement aux familles.
En ces temps de crise, boire l'eau du robinet, c'est très important car c'est une grosse économie. Si on fait le compte, ce que les gens ne dépensent pas en bouteilles plastiques leur permet de payer leur facture d'eau.
Car un litre d'eau en bouteille coûte au moins 25 centimes d'euros contre 0,1 centime lorsqu'elle arrive directement du robinet, soit 250 fois moins cher. Une eau gratuite et de qualité, accessible à tous, c'est le souhait le plus cher de Rita Biancalani, militante du mouvement de l'eau. Elle estime qu'il faudrait aller plus loin que ces simples fontaines.
Il faut bien insister sur le fait que l'installation et l'entretien de ces fontaines est payé par la mairie et donc par les citoyens. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau potable arrive directement chez nous.
Si boire de l'eau du robinet est devenu bien plus fréquent qu'il y a 20 ans, sa qualité est parfois encore mise en doute. Pour Rita Biancalani, comme pour les militants du mouvement de l'eau présent à Bruxelles, l'eau est un droit fondamental et sa gestion doit être entièrement publique.
Ce serait une gestion qui aurait à cœur le respect de l'environnement et de la santé des citoyens, deux principes de plus en plus ignorés et piétinés. La ville de Pise est l'un des exemples les plus flagrants parce qu'il y a une grande concentration de tuyaux avec de l'amiante pour amener l'eau. C'est un problème qui concerne la région mais aussi toute l'Italie.
De l'eau un bien commun, l'idée n'est pas nouvelle en Italie. Lors d'un référendum en 2011, une écrasante majorité de votants avait dit non à la privatisation de l'eau. À Naples, depuis quelques jours, le conseil municipal a entériné ce vote et rendu entièrement public la gestion de l'eau. Dans le reste du pays, en revanche, le mouvement de l'eau dénonce un retour en arrière. En Toscane, les 6 instances qui géraient l'eau n'en forment plus qu'une. Le profit maximal de 7% fixé par le référendum est resté lettre morte. Et le décret Sblocca Italia, promulgué en novembre dernier par Matteo Renzi, fait craindre à tous une vague de privatisation, et notamment dans le secteur de l'eau.
Deuxième cri d'alerte verte dans Accent d'Europe aujourd'hui, cette fois-ci pour les abeilles. Elles sont menacées dans de nombreux pays et plus particulièrement en France. Inquiets, les députés français viennent de se prononcer pour l'interdiction de pesticides jugés responsables de leur déclin. La Commission européenne a également tiré la sonnette d'alarme, comme nous l'explique Daniel Vigneron, le directeur du site d'information myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors pourquoi les députés français veulent-ils interdire aujourd'hui ces insecticides jugés dangereux pour les abeilles?
Parce que l'augmentation de la mortalité des abeilles est telle que la prédiction d'Albert Einstein risque de devenir demain réalité. Il avait prévenu que l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre si l'abeille venait à disparaître. Son raisonnement était bien évidemment pertinent. L'abeille, en butinant, est indispensable à la pollinisation, donc à la reproduction des fleurs et autres plantes. Sans elle, la biodiversité est menacée et les hommes sont condamnés à mourir de faim puisque l'essentiel de la production végétale destinée à la consommation humaine en Europe dépend de la pollinisation assurée notamment par les abeilles.
Et doit-on vraiment craindre la disparition des abeilles du continent européen?
En tout cas, la situation est inquiétante. Elles sont de moins en moins nombreuses en Europe et si rien n'est fait rapidement, elles risquent effectivement de disparaître en France. Cela explique que les députés ont voté pour l'interdiction totale à compter de janvier 2016 des produits phytosanitaires réputés toxiques pour les abeilles. Mais ce vote met le gouvernement en porte-à-faux vis-à-vis de Bruxelles. C'est du moins ce que pense Ségolène Royal. La France ne pouvant pas, selon la ministre de l'Écologie, décider seule d'interdire unilatéralement ces produits. C'est pourtant la Commission européenne qui, la première, a dès 2013 interdit partiellement l'usage de cette famille d'insecticides, puisque l'interdiction ne porte que sur 75 cultures les plus appréciées des abeilles. Dans cette affaire, les députés français prennent donc une initiative non conforme à la réglementation européenne actuelle.
Et peut-on dire, Daniel, que la production de miel en Europe est en baisse ?
De nombreuses études confirment la nocivité de ces produits chimiques de la famille des néonicotinoïdes sur les abeilles qui produisent du miel dans les ruches, mais aussi sur les espèces sauvages d'abeilles en Europe. Selon une nouvelle étude réalisée à la demande de la Commission européenne, 200 espèces d'abeilles sont aujourd'hui en voie d'extinction. Et si aucune mesure n'est prise d'urgence, 50 espèces supplémentaires vont également s'éteindre dans un futur proche. Quant à celles qui sont élevées pour produire du miel, elles ne sont également pas en grande forme, notamment dans les régions où l'on utilise massivement des insecticides pour protéger des maladies, les vergers et les grandes cultures comme le colza et le tournesol.
Et quels sont les pays les plus touchés ?
Ce sont les apiculteurs français qui sont les plus touchés. La mortalité se produit au printemps et en été, au moment où les abeilles butinent et sont donc susceptibles d'être contaminées par les insecticides. À ces périodes, le taux de mortalité en France atteint 14%, avec des pointes à plus de 50% dans certaines régions, comme celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Midi-Pyrénées. C'est nettement plus que chez nos voisins. En Grande-Bretagne, ce taux de mortalité atteint l'été 12%, en Allemagne 10% et en Espagne seulement 8%. Et il y a encore de vrais paradis pour les abeilles en Europe. En Suède, moins de 3% des abeilles meurent à la belle saison et en Lettonie, moins de 1%.
Et comment expliquer que la France soit en bas de l'échelle européenne ?
Officiellement, le lien entre l'utilisation des insecticides et cette mortalité n'est pas établi, mais la France est le premier consommateur de pesticides en Europe et, d'autre part, les maladies pendant la période estivale restent relativement rares dans l'Hexagone. Il est donc de plus en plus difficile de nier une relation de cause à effet entre pesticides et mortalité des abeilles.
Et puis à côté des pesticides, Daniel, il y a aussi le frelon asiatique tueur d'abeilles.
Oui, c'est une nouvelle menace venue de Chine. Ces énormes frelons peuvent faire des ravages dans les ruches en s'attaquant aux ouvrières. L'Espagne a été attaquée la première et maintenant on estime que les trois quarts du territoire français sont touchés. Les apiculteurs européens s'inquiètent également de l'expansion d'un autre parasite mortel pour les abeilles, le Cynips du châtaignier, venu lui aussi de Chine. Mais attention Frédéric, il y a les bons et les mauvais frelons, même si la plupart peuvent vous faire très mal s'ils vous prennent pour cible. Comme les abeilles, les frelons et plus encore les bourdons sont pourtant indispensables à la reproduction des végétaux et à l'agriculture. Et comme les abeilles, le quart des 68 espèces de bourdons d'Europe est menacé d'extinction. Alors si possible, autant éviter de participer à cette disparition à grands coups de bombes insecticides.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Il s'appelle Mohamed Nizar Bitar, syrien réfugié en Turquie, comme 2 millions de ses compatriotes. Mais cet homme de 49 ans, originaire de Damas, se distingue par son talent inouï d'entrepreneur. 4 ans après son arrivée, ce passionné de cuisine est aujourd'hui à la tête de 4 enseignes à Istanbul et bientôt d'une 5e à Ankara. Il fait travailler 280 Syriens réfugiés comme lui et son succès lui vaut la clémence des autorités. Anand Lauer est allé rencontrer cet homme hors du commun à Istanbul, dans le quartier d'Aksaray, où il a ouvert son premier restaurant.
Mohamed Nizar Bitar fait partie de ces chefs qui, quand ils parlent cuisine, ne conçoivent pas une table vide. Lorsqu'il prononce le mot falafel, c'est en faisant signe à un serveur d'amener illico une assiette pleine de ses anneaux de pois chiches frits. La même scène se répète après le mot houmous, une purée de pois chiches, mais aussi au mot taboulé, salade de boulgour et persil. Cheveux gris, moustache grise, visage rouge et joufflu, Mohamed est né en Syrie il y a 49 ans. Devenu, malgré lui, restaurateur à Istanbul, il commence par une mise au point en guise de mise en bouche.
En Turquie, les gens me disent que je fais de la cuisine syrienne. Non, la Syrie et la Turquie ont été unies pendant 4 siècles dans l'Empire ottoman. Nos cuisines sont identiques parce que la cuisine ottomane était très riche sur un territoire très vaste, du Yémen à la Bulgarie en passant par la Macédoine. J'explique aux Turcs que je cuisine des plats de leurs grands-parents. Prenez le confit de coing. Les Turcs vous diront que c'est un dessert turc. Mais en Syrie, à Alep, par exemple, tout le monde connaît. Parfois, je voudrais que tous ces peuples, les Syriens, les Turcs, les Libanais, les Palestiniens, s'unissent à nouveau comme dans l'Empire. mais pas au sens où le veulent certains extrémistes, ça non. Qu'ils se retrouvent, qu'ils mangent ensemble, juifs, chrétiens, musulmans de ces régions. En matière de cuisine, il n'y aura jamais de frontières.
Pendant 45 ans, la cuisine n'était pas un métier, mais un hobby pour Mohamed. Jusqu'en mars 2011, il vivait à Damas, où il possédait une usine de céramique, ainsi qu'une seconde fabrique à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Une entreprise prospère. Mais en mars 2011, au moment des premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad, Mohamed sent que le vent tourne. Il franchit la frontière avec toute sa famille, et depuis ce jour, il n'est jamais revenu en Syrie.
1966, c'est l'année de ma première naissance. Et le 27 mars 2011, le jour de ma seconde naissance, mon arrivée en Turquie. J'ai commencé en 2012 dans une minuscule cuisine en sous-sol. Je préparais du houmous pour des restaurants d'Istanbul. Puis un Syrien m'a proposé d'ouvrir un restaurant. Ça n'a pas marché. On a réessayé et il a été d'un grand soutien, très compréhensif avec moi. Il m'a fait crédit pendant 2 mois à une époque où je n'avais rien. Il a été patient, j'ai été patient. Et finalement, petit à petit, les clients sont arrivés.
3 ans après la cuisine en sous-sol, Mohamed Bitar est à la tête d'une chaîne de 4 restaurants en Turquie qu'il a baptisée Tarbouche, ce qui signifie fez en arabe, référence ottomane toujours. Avec ses 22 associés, puisqu'il ne peut pas assumer seul un tel investissement, Mohamed possède également 2 boulangeries à Istanbul, dont sortent chaque jour plus de 200 000 lavaches, des galettes à la farine de maïs qu'il vend dans toute la ville. Et tout cela, dit-il, c'est grâce à la Turquie.
Aujourd'hui, j'ai 312 employés, 90% sont syriens. La loi turque est très claire, pour chaque employé non turc, je devrais obtenir une autorisation du ministère du Travail. Donc, à tout moment, la police, municipale, nationale, le ministère pourraient me sanctionner. Au lieu de cela, ils nous regardent, nous, entrepreneurs syriens, d'un bon œil. Ou plutôt, depuis 4 ans, ils ferment les yeux. D'un autre côté, que peut-on faire de tous ces jeunes Syriens? Est-ce qu'il faut les condamner à nettoyer les pare-brises au feu rouge? Non. Attention, rien n'est gratuit. Je paye 8000 euros d'impôts par mois à la Turquie et j'en suis très content. C'est ma façon de payer ma dette à ce pays.
Mohamed a bien conscience de n'être qu'un Syrien parmi les 2 millions qu'héberge la Turquie, de loin premier pays d'accueil pour ses victimes d'une guerre qui entre dans sa 5e année. Parmi ces 2 millions de Syriens, seuls quelques 15% résident dans des camps financés par le gouvernement. Les autres vivant dans les grandes villes du sud du pays, mais aussi, pour plus de 350 000 d'entre eux, à Istanbul. Chaque jour, plusieurs de ses compatriotes poussent la porte de ses restaurants dans l'espoir d'une embauche. À l'image d'Emir, 21 ans, originaire de Damas, qui travaille ici depuis 1 an avec ses 2 frères. Mais le jeune Emir a la tête ailleurs.
Ici au restaurant, nous sommes tous des amis. Même mon patron est un ami et le salaire est correct, donc je me plains vraiment pas. Mais à Istanbul, la vie est très difficile. Tout coûte très cher et il faut travailler beaucoup, plus de 12 heures par jour. Moi, mon rêve, c'est d'aller en Europe, comme l'ont fait beaucoup de mes amis, en Suède, en Norvège.
Quand il entend le mot « Europe » dans la bouche de son employé, Mohamed bondit.
Plus de 200 000 personnes sont mortes en Syrie. Pardonnez-moi, mais la France, l'Italie ou l'Allemagne n'ont rien fait pour nous, les Syriens. S'ils avaient voulu en finir avec Bachar el-Assad, ils l'auraient fait en 2 jours. La Turquie est la seule à s'être occupée de nous. Évidemment, 2 millions de réfugiés, c'est un très lourd fardeau. Mais la Turquie pourrait transformer ce fardeau en chance. Beaucoup de ces Syriens sont jeunes. Ils peuvent travailler, contribuer à l'économie turque, chacun à leur niveau. Pour l'instant, c'est encore trop peu le cas.
Mohamed Bitar pourrait maudire pendant des heures le régime syrien, sa folie meurtrière, le bachiche systématique à l'époque où, avant la guerre, il fabriquait des céramiques, le séjour en prison qu'un refus de s'y soumettre lui a valu, dit-il, en 2007. Mais Mohamed veut oublier la Syrie. Alors, il demande aux Turcs d'être patients, comme il dit, pour lui et pour les 2 millions de réfugiés qui, comme Mohamed, ne rentreront peut-être pas, peut-être jamais en Syrie.
Accent d'Europe. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. On se dit à demain.
Autour de la question.